Les grands entretiens. Aujourd'hui, avec Gilles Clément. Gilles Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, jardinier, paysagiste, créateur de nombreux jardins, dont le parc André Citroën, et auteur de nombreux ouvrages, notamment autour d'une théorie du jardin planétaire. Peut-être pour commencer, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est ce jardin planétaire.
Oui, juste avant, une précision, parce qu'on cite souvent le parc André Citroën, je suis co-auteur. Et il y a avec moi un autre paysagiste et deux architectes. Donc nous sommes une équipe de 4 personnes. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas, il y a des jardins, des réalisations où on est seul. Pour ce qui est du jardin planétaire, j'en donne une définition comme ça, disant qu'il s'agit de la terre prise pour jardin, considérée comme un enclos par conséquent, puisque le mot même jardin vient de Garten, qui veut dire enclos, un lieu où on protège la vie, le meilleur, la diversité, ce que l'on exploite, les fleurs, les fruits, les légumes, l'art de vivre, enfin ce qui paraît être important. Et puis, il se trouve que notre petit enclos, celui qui est à la mesure de nos gestes et à l'échelle de l'homme, il est en connexion avec l'enclos d'à côté. Et ça, on le savait un peu, mais on le sait de façon sûre à travers les études scientifiques, enfin les constats plutôt, qui prennent le nom de études écologiques, études des écosystèmes, au fond de tout ce qui se passe entre les êtres et qui modifie d'ailleurs par interaction respective les systèmes en question. Donc ce sont des modes de communication qui ont des résonances dans toutes les directions. Ce qui fait qu'un petit endroit, voilà, ici c'est l'histoire de battement d'ailes de papillon, n'est pas sans relation ni sans conséquence avec l'ouragan qui va se situer à l'autre bout de la planète dans le Pacifique. C'est l'idée, l'image que Lovelock utilise pour illustrer son idée de la planète vue comme un seul et unique être vivant. Moi, je rajoute à cette notion le mot jardin, savoir que, bien sûr, je considère que c'est juste cette vision d'un seul et unique être vivant, mais jardin veut dire jardinier, donc il y a quelqu'un pour s'en occuper. Et en effet, la planète, elle est couverte par l'humanité. Cette démographie s'accroît de façon considérable. Toutes sortes d'inquiétudes naissent de cet accroissement. Et on se demande bien comment on va continuer à l'exploiter, ce jardin, correctement. Donc la question qui est posée par le jardin planétaire, c'est comment peut-on continuer à vivre, comment peut-on continuer à exploiter cette diversité dont nous dépendons. Nous en dépendons totalement, sans détruire cette diversité, donc sans l'altérer, sans la détruire en nombre, mais aussi en qualité, sans altérer les substrats, ça veut dire la qualité de l'eau, de l'air et du sol, qui permettent la vie, sa régénérescence, son invention. Alors ça, c'est très délicat, parce que ça signifie qu'on est obligé d'introduire des modes de gestion complètement nouveaux, que certains ont déjà mis au point, qui sont des méthodes écologiques de gestion qu'on appelle l'agriculture biologique, les cultures, enfin tout ce qui est lié à ça. Il y a plusieurs manières de le faire et de le dire, mais le résultat étant toujours le même, c'est-à-dire de ne pas empoisonner, ne pas traumatiser, préserver les interactions, donc la diversité aussi. Et par conséquent, on s'éloigne complètement des techniques de monoculture, des techniques intensives de production, des idées de rendement par surface. On va beaucoup plus vers la rentabilité que vers le rendement. On peut très bien imaginer qu'en dépensant peu, on gagne autant qu'en dépensant beaucoup. Et ça, c'est une question qui est très intéressante quand on commence à raisonner sur des territoires vulnérables et fragiles, parce que plus on dépense, plus on pollue, globalement. C'est à peu près toujours comme ça que ça se présente. Plus on a évidemment un rendement, mais plus on épuise les sols, par exemple, et plus on devra à terme réparer, soigner. Donc toute l'économie que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons la concevoir comme une anticipation d'une économie sur le soin que l'on devra apporter sur la planète dans le futur et qu'on est obligé déjà de commencer à faire. Alors, il y a des mesures actuelles prises, y compris par nos gouvernements, qui sont tout à fait contraires à cette disposition-là, et l'agrocarburant en est une.
Vous venez à Aix-en-Provence participer à une manifestation qui est intitulée « La cité en débat ». Est-ce qu'aujourd'hui, la ville au sens général, générique, invente ou suscite l'apparition de nouvelles formes de jardins, peut-être de jardins interstitiels, de jardins verticaux, de coulées vertes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça, je pense que c'est une piste importante. Il y a de plus en plus de possibilités, enfin, chaque aménagement génère un délaissé. Le nombre d'immeubles ont des parois aveugles, il y a de la place perdue partout, il y a des interstices, comme vous disiez, et dans tous ces lieux-là s'installe possiblement une diversité. Ces lieux, je les appelle les lieux d'accueil à la diversité, aussi bien d'ailleurs en campagne qu'en ville, et ça prend pour moi le nom de tiers paysage, un terme que je pourrais expliquer si vous le voulez. Bien, le tiers paysage, alors, reprenons là, c'est pas un endroit, c'est une idée, si vous voulez, plutôt, c'est un terme qui permet de nommer cette somme de petits en espaces qui sont des oublis, des lieux où l'homme ne vient pas, ne s'occupe pas de ça parce qu'il ne le peut pas, parce que mécaniquement ça n'est pas commode, parce qu'il y a des rochers, parce que c'est trop en pente, parce que dans une ville c'est trop petit, ou c'est ou même la fissure d'un pavé, ou tout simplement c'est une friche, enfin c'est un terrain vague. Bref, ces endroits-là reçoivent des êtres, animaux, végétaux, parfois aussi humains d'ailleurs, qui n'ont pas de place ailleurs, parce qu'ils sont chassés d'ailleurs. Les trois orchidées qui poussent en Creuse, d'où ma région, en sol acide, elles, il y en a très peu d'espèces donc, dans ces sols-là, elles sont sur les bords des routes, sur les bas-côtés. De l'autre côté de la haie, c'est cultivé, il n'y a plus rien, et sur le goudron, ça ne pousse pas. Donc ce minuscule linéament, il est riche, il accueille des espèces qu'on ne trouve plus ailleurs du tout. Alors, je trouve que c'est important. Ce lieu, je dis, c'est notre futur, puisque c'est lui qui porte notre patrimoine génétique de demain, dont nous dépendons, puisque nous dépendons de son exploitation. Ça ne signifie pas forcément qu'il faut l'exploiter, mais il faut le connaître au moins pour le préserver. Et donc, ça devient un trésor, ces lieux-là, si on les regarde de cette façon. Alors du coup, j'en ai fait des cartographies, j'en ai fait des démonstrations à travers différents exemples de mise en scène, des scénographies particulières adaptées à ça, et un parc, qui est le parc Matisse, à Lille, où je réserve à la seule nature, exaucée à 7,50 m de haut, sur un socle inatteignable, finalement, difficile en tout cas à atteindre, une plateforme qui est fabriquée, le paysage là est fabriqué par la nature toute seule. C'est le seul parc où j'ai pu parler, disons, du tiers paysage avec une mise en scène de jardin. Le jardin lui-même, qui est un grand parc de 8 hectares, il est géré écologiquement avec une gestion différenciée, évidemment précautionneuse, mais enfin, l'emblème du tiers-paysage est situé à cet endroit-là. Alors, pour nous, ça a beaucoup d'importance parce que vous posiez la question de la ville. Et de plus en plus, on s'aperçoit que la diversité en ville, elle croît, et curieusement, elle est supérieure, elle devient de plus en plus supérieure à celle que l'on trouve en campagne, ce qui est évidemment inquiétant. Alors, on peut estimer que l'apport de plantes exotiques, par exemple, ou même d'animaux exotiques ou d'élevage, enfin bref, nos commensaux, nos amis, bref, tout ça fait de la diversité artificiellement introduite. Mais il y a aussi une diversité naturelle qui se positionne dans la ville parce qu'elle y est protégée. À Paris, on récolte un miel que l'apiculteur qui fait ce miel appelle le miel béton, vous le connaissez, qui a une qualité gustative haute et une qualité tout court, c'est-à-dire pour la santé, qui est bonne, très bonne, et une diversité par les pollens qui est supérieure ou égale à ce qu'on trouve dans les miels de montagne. Alors que le miel en quantité et en qualité dans les plaines est catastrophique, les abeilles sont en voie de disparition. Et encore ces temps-ci, puisque ça date de ce mois-ci, on vient de nous annoncer la venue d'un nouvel insecticide destiné à tuer tout ça. Donc les abeilles vont encore souffrir beaucoup et peut-être même vraiment aller jusqu'à une certaine disparition. Donc on se rend compte que de façon très contradictoire la ville, pas pour toutes les espèces, bien entendu. Un chevreuil, il a du mal dans les rues. Ce n'est pas son milieu. Mais pour des espèces qui peuvent être des insectes, des oiseaux, des plantes, tout de même, beaucoup, même des mammifères, tous ces animaux-là entrent en ville parce qu'ils y trouvent une protection.
Dex, à Marseille, il n'y a qu'un pas. Vous connaissez la ville de Marseille, sa situation, et peut-être qu'est-ce que vous en pensez, justement, du point de vue des jardins, de ceux qui existent, et surtout de ceux qui restent à faire.
Oui, plutôt de ceux qui restent à faire, parce que la garrigue qui entoure cette ville, elle a une richesse propre. Bon, elle est bien sûr perçue comme telle quand les gens vont se promener, qu'ils vont jusqu'au Calanque, ils vont traverser des portions comme ça, qui sont étonnante, mais ils n'ont pas intégré cette qualité-là pour l'introduire dans les jardins. Les jardins de Marseille sont relativement classiques, ils empruntent à des modèles qui sont sages et qui sont plutôt du 19e, y compris les plus récents d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une ville qui a franchi un pas vers la modernité. Mais elle pourrait le faire, hein. Il suffirait de, par exemple, que la municipalité change. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Disons ça. Bon, mais il y a un exemple d'un de mes élèves, Rémi Dutoit, qui avait fait un jardin avec des espèces qui ne sont pas habituelles, mais qui sont des espèces très intéressantes du point de vue de la gestion en particulier. Ce jardin a été arraché par la mairie d'ailleurs, parce que c'était considéré par tel ou tel comme quelque chose qui était trop fouillis, par exemple. Alors que les riverains s'y étaient fort habitués, qu'ils avaient trouvé ça intéressant même, et plutôt étonnant. Finalement, comme il y a eu un article là-dessus dans les journaux parlant de cet acte qui était plutôt un vandalisme d'État que réellement une action civique, ils ont remis le jardin. Enfin, ils ont pris des dispositions pour le faire. Je ne sais pas où ça en est. Mais c'était pour dire que de ce point de vue-là, il y a une vision qui n'est pas encore... Il y a une vision un peu ancienne, on pourrait dire, de la question du jardin, du parc et du jardin. Mais par ailleurs, Marseille, c'est autre chose. C'est pas ça uniquement. C'est évidemment un paysage, un relief, une couleur incroyable et un vrai brassage humain. C'est quelque chose, moi, quand je vais à Marseille, je trouve que là, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le détail, mais on est dans d'une certaine façon dans une ville du futur. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant, qui fonctionne, hein. Quelque chose qui fonctionne, me semble-t-il, en tout cas. Ça ne l'est pas, pour d'autres raisons. Mais là, oui, je dirais, comme ça, dans la rue. C'est la question humaine, plutôt. Hein. Voilà, puis bon, c'est le port et le paysage que l'on sait.
À propos de l'humanité et du futur, Il existe un lien très fort entre le jardin et l'utopie, l'utopie politique, l'utopie sociétale. Cette dimension d'utopie des jardins, est-ce qu'elle est toujours aussi présente aujourd'hui dans un contexte d'une praxis politique où les idéologies et même parfois les idées aussi manquent un peu, se font rares?
Alors oui, je ne dis pas que c'est généralisé, mais si il n'y a pas cette dimension-là, le jardin n'existe pas. Le jardin, toujours, historiquement, il a exprimé une idée aboutie de son temps. Alors la façon dont on voyait le monde avait une répercussion sur la façon dont on allait le dessiner dans le jardin. Et ça dépend donc de la cosmogonie. Lorsque les Perses ont inventé leur jardin, ils y ont positionné, surtout après avec l'influence de l'islam, c'était plus évident, mais les quatre fleuves du paradis, parce que presque toujours ces jardins-là se situent dans les zones désertiques, et que l'eau, il y avait tant d'importance qu'il s'agissait de la montrer comme quelque chose de très précieux. Ça a atteint les styles de jardin jusqu'à Grenade, avec les hispano-mauresques, fameux de cette... Bon. Lorsqu'on a voulu dire autre chose, c'est-à-dire que on parlait plus de l'eau comme une essence vitale de tout, mais le pouvoir comme ce qui finalement était, fallait le montrer, parce que c'était ça, qui était la supériorité de l'homme, c'était sa maîtrise de l'espace. Les jardins classiques traitent de ça, puisqu'ils prennent l'espace jusqu'à l'horizon et même au-delà. Il fallait des grandes perspectives pour ça. Donc la forme d'un jardin traduit une manière de voir le monde. Un jardin balinais, c'est une cosmogonie qui est exprimée, puisque presque tout repose, le bassin repose sur une tortue Bedawang, qui est le socle sur lequel le monde s'est créé. Donc déjà la figure apparaît, littéralement. Hein. Et puis après il y a les lotus autour, qui eux expriment comme toujours en Asie le passage de la boue à l'esprit, puisque ça s'en va dans l'air. À travers l'eau, tout ça, ce sont des symboles importants. Donc la forme, le dessin d'un jardin, il traduit une idée qui est une idée forte, comment on voit le monde, donc une utopie. Possiblement une utopie, pas toujours, mais disons l'équivalent. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment voit-on le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on veut protéger? Qu'est-ce qu'on met au milieu? Quelle est l'idée principale? Alors, moi je dis que, étant donné ce qui nous arrive dans le milieu du XXe siècle, qui est l'avènement écologique, je le positionne comme un avènement, c'est-à-dire quelque chose dont nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences, tellement c'est important, quelque chose sur lequel on aurait dû bâtir depuis très longtemps un projet politique, qu'on ne fait pas, parce qu'on est très attardé. Je rappelle que Dumont a fait ses premières propositions en 1974. C'est incroyablement lointain, et qu'on n'en a rien fait, qu'on a voté à 1%, je crois. C'était mon premier vote politique. Alors, je suis à la fois très fier et désespéré de penser qu'on en est presque toujours au même point. Bref, ça, ce sont des choses qui sont fondamentales et qui vont conditionner complètement notre avenir. Donc un jardin, s'il est un jardin de notre temps, doit parler probablement de cette question. Et cette question-là, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne veut pas protéger spécialement l'eau, on ne veut pas protéger spécialement magnifier l'idée du pouvoir, on ne veut pas faire un jardin romantique en dramatisant la nature vue comme un tableau à travers un cadre, à partir d'un point de vue, on n'en est pas là du tout. On veut parler de la vie parce qu'elle est en danger. C'est cette question. Elle est en danger, la diversité disparaît, nous allons disparaître si nous ne faisons pas attention. Donc c'est une question biologique qu'on doit parler de ça. C'est pour ça que pour moi, le parc Matisse, dont je parlais tout à l'heure à propos du tiers-paysage, et qui met la vie faisant, avançant seule, évidemment au cœur de la ville, donc avec nous, mais elle est prise là comme un... C'est un emblème important de cette idée-là. C'est une manière de parler de ça. Donc pour moi, c'est un jardin de notre temps. Il n'est pas très bien reçu. Hein. Il commence à seulement être compris. Ça a beaucoup de mal parce que accepter une friche, c'est une difficulté. On ne sait pas ce que ça signifie, une friche. Quand on n'en a pas compris les mécanismes, on peut très bien trouver ça détestable. Et à ce moment-là, vouloir l'éradiquer. Et ça a été une réaction. Puis maintenant, ça y est, ça va mieux, les gens ont compris. Et c'est une diversité dont nous avons besoin. Donc ça signifie autre chose, la friche, comme symbole, maintenant.
Précisément, les élus et les urbanistes, notamment dans les grandes villes, avaient à cœur ces dernières années d'éliminer, d'éradiquer les friches. Parce qu'elles étaient dangereuses, parce qu'elles, semblait-il, leur posaient des problèmes en termes de sécurité. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point c'est pourtant des espaces d'exubérance qui sont absolument nécessaires, non seulement pour l'écologie, mais aussi pour la vie des gens, pour le bonheur des gens.
Mais évidemment, bien sûr. Bien sûr, la diversité des comportements, la possibilité de trouver un espace de liberté d'expression, la liberté tout court. Quand j'ai mis en place le jardin en mouvement, c'est pas une friche, mais c'est basé à partir de la friche. Toute la réflexion vient de là. Les premiers comportements des gens là-dedans, c'était de se mettre où ils en avaient envie, y compris dans l'herbe, s'asseoir un peu comme n'importe comment. Et quand on les interviewait, ils disaient « ça me rappelle mon enfance », et ils avaient un peu de mal à aller plus loin. Je trouvais ça très beau, mais c'était, semblait-il, que ça leur rappelait les moments où il n'y avait pas encore d'interdit. Or, les interdits qui viennent comme ça, avec des règles particulières, en particulier les règles de sécurité, ça peut être justifié quand le danger est une réalité, mais bien souvent il ne l'est pas, et on sait à quel point c'est utilisé politiquement aujourd'hui pour justement séparer, cloisonner, diviser pour régner, et créer la terreur pour pouvoir régler des problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec une réalité de danger. Dans une friche, il y a une diversité qui nous concerne tous. Et il y a aussi une possible occupation du sol par les humains, enfin du terrain, qui n'est pas possible ailleurs. C'est exactement la même chose. Au fond, c'est un tiers paysage, une friche, c'est un fragment du tiers paysage. Eh bien, de même que les espèces qu'on y trouve là sont des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs, par conséquent, on doit les préserver. De même, les actions, enfin les gestes, les pratiques qu'on trouve là, les êtres même qui y vivent, car il y a des squats aussi bien, eh bien on n'y trouve pas ailleurs. Ce sont des positions de refuge et qui illustrent cette diversité dont nous avons vraiment besoin, enfin que l'on doit en tout cas préserver, quoi qu'il arrive, pas uniquement des diversités spécifiques, mais des diversités comportementales aussi.
N'adoptons pas une démarche volontariste pour cultiver cette diversité, ce jardin planétaire est donc en danger.
C'est tous les problèmes des semenciers tels que Cocopélie, des gens comme ça qui essayent de maintenir des variétés qui ne sont plus du tout sur le commerce, sur le marché, mais qui expriment une diversité. Bon. Bref, ça se réduit, même cette diversité-là, qui est celle qu'on exploite. On pourrait arriver à un moment donné, à une situation, celle que j'appelle l'homme symbiotique, je ne reprends pas le terme exactement, la signification que lui donne Joël de Ronay, mais enfin, je l'utilise, à savoir, c'est d'ailleurs l'exemple du ginkgo est aussi, je reviens vers le ginkgo biloba, c'est un arbre qui n'existe plus à l'état de gisement naturel. Il est vraiment un commensal de l'homme, on pourrait presque dire. C'est lui qui l'a maintenu dans la vie. Il est un arbre d'alignement à Pékin et dans les villes d'Asie, partout. Il arrive dans le monde entier à titre ornemental. Mais il est maintenu par l'homme. L'homme n'avait pas, finalement, s'en était pas occupé, eh bien, il aurait disparu complètement. C'est d'ailleurs un fossile vivant. Il est considéré comme tel. Bon. On peut parler de la même façon de toutes les espèces vivrières qui sont artificialisées, sélectionnées et fragiles, au point que si nous ne nous en occupons pas, elle disparaîtrait. Si parallèlement à ça, évidemment, on a détruit la diversité d'à côté, il ne reste plus grand-chose. Donc on peut estimer que dans un avenir, j'espère le plus lointain et peut-être jamais, mais enfin bon, on voit la diversité dont nous ne nous occupons pas disparaître par notre ignorance, le fait qu'on a besoin de place, que ça n'est pas rentable, donc on la supprime, on construit des maisons, on fait autre chose, bref, et on garde les grandes monocultures. Elles sont sous assistance, ces espèces, cette diversité-là. Elles dépendent de nous, mais nous dépendons d'elles. On se trouve alors en état de symbiose. Si nous ne prêtons pas attention au maintien de la vie de cette diversité, c'est nous que nous atteignons, mais de façon complètement directe cette fois-ci. Le lichen, c'est un symbiote qui est fabriqué d'un champignon à l'intérieur duquel il y a une algue. L'algue ne peut pas vivre sans ce champignon, le champignon ne peut pas vivre sans l'algue. On en arriverait donc à une situation extrêmement dangereuse où toute altération d'un système viendrait altérer l'autre. Ce serait terrible, parce que là, ce serait la fin de la vie sur la planète, pour le coup, en tout cas, des macro-organismes. Il resterait bien quelques bactéries, bien sûr. Donc la seule façon serait de constamment réinsuffler dans le milieu qui est celui de la... le territoire de prédation, quoi, le milieu exploité, l'énergie que nous lui prenons. Tout le temps. Et sinon, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est un... Alors, pour éviter d'en arriver à ce stade ultime, qui est une folie, bien sûr, hein, parce que c'est très très fragile comme système, il faudrait que déjà... on anticipe et que déjà on commence à se dire, eh bien, si nous prenons ça à cet environnement, nous lui redonnons la même chose en quantité énergétique, en qualité, en diversité autant que possible, et ainsi de suite.
Nous ne connaissons même pas exactement l'étendue de la diversité des espèces, alors comment être certain de l'impact que produit l'anthropisation de la planète sur cette diversité des espèces?
Oui, alors c'est pas parce qu'on ne connaît pas cette diversité dans sa totalité qu'on est amené à la détruire aveuglément sans se poser de questions. On ne peut pas estimer pouvoir continuer à l'exploiter comme on le fait par exemple des animaux marins. Ils dépendent aussi, eux. Tout dépend de tout. Donc si on détruit une espèce marine, on va probablement pas détruire l'espèce uniquement elle, mais un système. Et ainsi de suite. Et on peut atteindre les abysses assez rapidement avec ça. Non, ce que je crois, c'est que nous sommes encore actuellement dans un pic de diversité. La diversité, son origine, ce sont les isolats. C'est-à-dire qu'à partir d'une souche commune, se divisant par exemple, bien, il y en a une qui va rester sur un continent, l'autre qui va dériver, puisqu'il y a eu la dérive des continents. Nous sommes dans un cas de dérive, de grande dérive, avec des continents très isolés les uns des autres, et de grands morcellements avec beaucoup d'îles de taille très variée. Bien sûr, il y a des îles récentes qui sont plutôt volcaniques, mais il y a des fragments de dérive. Quoi qu'il arrive, tous ces isolats sont des lieux où la diversité existe parce que les espèces qui sont arrivées là se sont spécifiées dans le temps. Elles se sont fabriquées de façon nouvelle, y compris génétiquement. Ce qui fait que lorsqu'elles rencontrent une cousine issue de la même souche des milliers d'années plus tard ou des centaines d'années plus tard, elles ne sont pas capables de se reproduire parce qu'elles sont trop éloignées génétiquement. C'est ce qu'on appelle une espèce nouvelle dans ces cas-là, même si elles se ressemblent énormément. Donc là, bon, c'est ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique. Donc plus il y a d'isolats, plus on a de chances d'avoir un grand nombre d'espèces sur la planète. Or, la planète, elle est pleine de ce morcellement, elle est pleine de reliefs qui font barrière, de rivières, elle a plein encore de moyens de maintenir ces isolats. Mécanique inverse, c'est le brassage planétaire. Et l'homme joue un grand rôle dans le brassage. Donc met en péril une partie de cette diversité par la mise en présence d'espèces qui ne sont pas faites pour se rencontrer, ou en tout cas qui vont peut-être, il y en a une qui va lutter contre l'autre. Cela dit, c'est une très petite perte de diversité qui est observée par la bataille, la mise en concurrence. Elle existe. On connaît des exemples de plantes dites invasives qui prennent la place, surtout dans les tout petits biotopes, d'espèces fragiles.
Sur le bord méditerranéen, il y en a partout.
Il y en a partout, mais sur le bord, dans le fond même méditerranéen, sur le bord méditerranéen, on parle de la griffe de sorcière, qui est une plante sud-africaine. Enfin, très souvent, elle occupe une niche écologique vacante. C'est des rochers sur lesquels rien ne pousse. Et dans le fond marin, Colerpa taxifolia, mais... Là, il y a d'autres choses à dire là-dessus. C'est que si les milieux sont encore équilibrés, c'est-à-dire biotiquement, ils représentent quelque chose, ils sont viables, là, toujours la vie invente, justement, donc il peut y avoir une réponse, ce qu'on appelle la réponse du milieu. Les scientifiques ne savent pas dire autre chose là-dessus. Et du coup, les invasions en question, entre guillemets, cessent. Et aujourd'hui, Colerpa taxifolia, ça y est, je ne dis pas que son expansion est totalement arrêtée, mais elle est énormément limitée en dynamique. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Parce que le milieu de la Méditerranée est encore un milieu viable. L'eau serait complètement altérée, seulement vivraient là quelques espèces dont l'amplitude biologique est très considérable et qui supportent des milieux dégradés. Et ça, on en connaît quelques exemples, avec la Jussie, par exemple, dans les milieux aquatiques d'eau douce, très très pollués, très très eutrophisés par les cultures périphériques, en particulier les cultures de maïs dans les Landes, vous voyez. Là, un étang dans les Landes aujourd'hui, c'est un étang de Jussie, parce que il est tellement eutrophisé que seulement les nitrophiles viennent là-dedans. Oui, nous sommes dans un pic de diversité, encore aujourd'hui, parce que nous sommes dans une phase où il y a encore énormément d'accidents qui nous séparent, qui séparent les faunes, les zones géographiques, les unes des autres, ainsi les faunes, les flores, et ainsi de suite. Mais, donc il est logique que, ma foi, nous allions vers une baisse de la diversité, en cas, par exemple, de la reformation d'une Pangée. Dans quelques millions d'années, peut-être qu'il y aura de nouveau un seul continent, parce que les continents vont se retoucher. Une Pangée, c'est un continent unique, comme il y en a eu 5 fois sur la planète. Donc ça n'arrête pas de bouger, hein, sur la planète. Mais probablement que, bien avant ça, la diminution de diversité aura eu lieu de façon extrêmement violente à l'échelle géologique, à cause de l'homme. C'est lui qui, là, en un siècle, 2 siècles, détruit des milliers d'espèces. Alors, bien sûr que toutes les espèces ne sont pas recensées, qu'on en découvre aujourd'hui encore beaucoup sur les canopées des forêts tropicales et beaucoup dans les fonds, beaucoup dans les massifs coralliens, beaucoup dans les abysses. Mais enfin, est-ce que c'est une raison pour aveuglément, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en déboisant la Malaisie, l'Amazonie, pour faire des palmiers à huile, pour mettre du carburant dans les voitures du monde entier, hein, c'est un crime absolu.
Existe-t-il des espèces qui naissent ?
Oui, oui, oui. Ça naît très lentement, une espèce, mais il y a, disons, des hybrides qui se font, il y a des mutations qui se font. C'est toujours des choses, disons, éloignées dans le temps par rapport... Vous voyez, de temps en temps, il y a une observation, on dit, tiens, ben ça, c'est probablement une espèce nouvelle, on ne l'avait jamais vue. Pourtant, c'est un territoire qu'on connaît très, très bien, alors peut-être c'est issu de telle ou telle hybridation, rencontre, mutation, on ne sait pas toujours, il y en a, mais c'est incommensurable par rapport à celles qui disparaissent.
Qu'est-ce que vous pensez de l'appropriation du vivant, justement, de cette façon qu'ont certains grands groupes agroalimentaires ou semenciers de s'approprier des pans entiers de matériaux génétiques, et y compris non seulement leur création et leurs hybrides, mais les plantes qui sont à l'origine de cette hybridation ?
Je pense que l'appropriation du vivant est un scandale humain, c'est une chose intolérable, et que c'est en ce nom-là que l'on doit faire des, y compris faire des actes de violence, comme faucher un champ d'OGM. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? La nature, elle fait des OGM tout le temps, donc c'est pas l'OGM en soi qui pose un problème. Encore que les manipulations actuelles ont des conséquences que l'on vient seulement d'observer là, ces dernières années, donc on est dans le balbutiement par rapport à tout ça, mais on se rend compte que c'est pas si anodin, et que ça peut, de proche en proche, nous toucher, nous aussi, mais toucher tous les êtres vivants. Donc ça n'est pas anodin, mais le problème est plus grave quand il s'attaque directement à l'humanité, dans le sens où on prend en otage la population humaine en lui confisquant la possibilité d'utiliser le bien commun, qui est tout simplement les plantes qui sont là, qui n'appartiennent absolument à personne, pour les obliger à consommer un produit qui aurait soi-disant été breveté parce qu'on en aurait trouvé le principe actif. Mais ces populations-là, ils les avaient trouvées bien, bien, bien avant. Ouais. Ils n'avaient juste pas marqué, c'est le brevet, ils ne l'avaient pas breveté, c'est tout. Et nous avons une loi qui s'appelle la loi d'orientation agricole qui a été faite en 2006, la France, hein, pays soi-disant des libertés, qui est une loi de confiscation du bien commun, pure et simple. Ça s'appelle la loi de l'orientation agricole, donc, qui prévoit d'interdire les produits non homologués. Les produits non homologués, c'est ceux qui, justement, ne sont pas passés par toutes ces fourches codines-là, ne sont pas brevetés, ne font pas l'objet de monopoles, en gros. Hein. Et ça touche des choses comme le purin d'ortie. Vous avez dû entendre parler de ça. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'on a menacé de 25 000 euros d'amende, à moins que ce soit 75 000, d'ailleurs j'ai oublié, et 2 ans de prison. Tous ceux qui fabriquaient ça, en les vendaient ces produits-là, écrivaient à ce propos, en parlaient, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a eu une levée de boucliers. Il y a eu un petit recul de la part du gouvernement qui, en 2007, a prévu, en fin 2006, un amendement qui autoriserait le purin d'ortie parce que celui est emblématique de tout un ensemble. En réalité, on n'a jamais vu le texte de l'amendement, mais le décret d'application de cet amendement n'est jamais passé. Donc, de toutes les façons, les gens qui utilisent ou qui vendent ces produits-là sont hors la loi aujourd'hui, ce qui est un scandale, bien sûr. Alors, du coup, moi, j'ai fait un jardin d'ortie à Mel, dans la ville de Mel, un jardin au milieu des orties, où je montre comment on fait le purin d'ortie. On distribue dans la ville de Mel, tous les vendredis au marché, gratuitement, du purin d'ortie, que les gens peuvent diluer. C'est un extraordinaire produit qui renforce l'immunité des plantes lorsqu'on s'en sert en les arrosant, pulvérisant, etc. C'est mon premier jardin politique. Je suis donc hors la loi. Et d'autres avec moi, puisqu'il y a tous ceux qui en parlent et tous ceux qui écrivent des livres là-dessus. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, les lobbies qui donc agissent de cette façon ont le concours de la loi, enfin des politiques, ou inversement, ils s'appuient les uns les autres et ça devient une machine d'où il est difficile de lutter contre, il est difficile de s'en sortir, mais néanmoins, si on n'en parle pas, il est évident qu'on ne s'en sortira jamais. Donc il faut récupérer le bien commun.
Votre prochain projet s'intitule « Toujours la vie invente ». Est-ce que, pour conclure cet entretien, vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, « Toujours la vie invente », c'est le titre d'un petit ouvrage qui est la transcription d'une conférence faite à Moinsartou, il y a 2 ans. Et ça a été mis en vente par l'Aube, là, récemment, mais en fait, c'est une conférence à l'origine, hein, tout petit texte. Ça signifie simplement qu'on se trouve dans une situation d'imprédictibilité constante. Ça va très bien avec la théorie du chaos, d'ailleurs. Les scientifiques sont d'accord avec ça. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine prévision parce que, quelle que soit la maîtrise que l'on ait de l'espace, des éléments que nous mettons face à face, des scénarios que nous organisons, enfin tout ça, quelque chose va se passer qui va déjouer ce que nous avons prévu. Parce que justement, la vie invente. Quand on sait, par exemple, qu'un arbre, puisqu'il ne peut pas s'enfuir, va devoir réagir à un changement du climat ou à une attaque quelconque, parasite par exemple, fabrique un génome nouveau, d'une façon immédiate. Et c'est extrêmement troublant. Les animaux ne le font pas. Hein, ça, ils ne sont pas capables de le faire. Les arbres, oui. On se dit que la réaction à l'environnement, c'est très lamarckien d'ailleurs comme point de vue, elle est immédiate et l'évolution se fait probablement dans ce sens. En tout cas, le monde végétal est très très performant pour résister à des chocs évolutifs. Hein. On sait bien que le ginkgo biloba, par exemple, a résisté à des radiations très très fortes, et à Hiroshima, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Bon, donc on a là des capacités de réajustement et d'invention, c'est pour ça que je dis toujours la vie invente, qui sont énormes. Ça, c'est pas pour une raison suffisante pour tout bouleverser, traumatiser la planète au prétexte que nous serions capables, les êtres vivants seraient capables de se réajuster, car ça n'est pas tous, ni rapidement. Certains ne le peuvent pas. Les animaux sont très en panne par rapport aux végétaux. C'est eux, les végétaux, qui sont performants dans cette histoire-là. Néanmoins, elle invente, y compris pour les êtres complexes et les animaux, y compris pour les humains, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que je dis que notre regard quotidien, il pourrait être plus celui d'un jardinier qui se repose des questions tous les matins sur ce qu'il doit faire parce que quelque chose de nouveau est arrivé, puisque toujours la vie invente, plutôt que de reconduire une action modélisée à partir d'un schéma du passé qui, de toute façon, est déjà caduque.
Merci Gilles Clément. Gilles Clément participait le 6 mars 2008 à la 3e édition de La Cité en débat à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence, où cet entretien a été enregistré. Pour plus d'infos sur les jardins de résistance et les publications de Gilles Clément, www.gillesclément.com.